Non, non, c'est bon.
Excuse-moi.
Ça va venir.
OK. On attaque. Alors, voilà maintenant, on arrive à la précision sur la façon d'interpréter le texte. Tous les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant sont des éléments d'interprétation qu'on doit tenir compte. Maintenant, on utilise un mot technique qui vient du grec hermeneia, qui signifie interprétation, et on appelle ça l'herméneutique. En fait, l'herméneutique, c'est simplement qu'une méthode d'interprétation qu'on applique au texte biblique. Et je crois que celle qui est la plus cohérente, la plus solide, c'est celle qu'on pourrait appeler littérale, grammaticale et historique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vous explique ces trois termes-là. Premièrement, littéral, ensuite grammatical et historique. L'interprétation littérale tient simplement compte du sens normal des mots. Il y a un, comment on dirait, un adage en anglais qui dit « If normal sense makes sense, don't seek another sense.
» Si...
Oui, c'est exactement. Aussi, si on voulait jouer avec le même mot, on dirait si le sens normal a du sens, ne cherche pas un autre sens. Donc, c'est exactement le sens normal des mots. Mais bien entendu, quand on dit cela, on tient compte du contexte parce qu'un même mot peut avoir plusieurs sens selon le contexte où il est employé. Mais c'est son sens normal. Et ce que ça veut simplement dire, c'est ne mets pas quelque chose dans le mot qui n'est pas là, qui ne lui appartient pas. Il faut qu'il ait ce sens-là. C'est là qu'on parle de littéral, mais bien entendu, il y a beaucoup d'autres éléments à tenir compte. Grammatical, ce sont les règles de grammaire. Interpréter la Bible avec de la grammaire, bien sûr! J'ai dit à un jeune frère tout à l'heure, quel est le verset le plus connu de toute la Bible? Le savez-vous? Oui, vous pouvez le citer. Oui, ça manquait de conviction un peu, mais c'est bon. Ce que je veux dire, c'est comment débute le verset? Avec quel mot?
Car.
Vous débutez souvent des conversations, vous, avec car? On cite ce verset-là, car Dieu attend... Oui, oui, mais attends, mais le car, il veut dire quelque chose. C'est une conjonction explicative. Il faut savoir ce que dit le verset d'avant, tu vois. Pour l'interpréter dans son sens exact, il faut savoir le verset 15 et le contexte du verset 14 avec le serpent dans le désert, etc. Et là, on parle de grammaire. Les conjonctions, les prépositions, les propositions subordonnées relatives. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais c'est hyper important. Parce que c'est ce qui crée des liens entre les idées. C'est ce qui fait que ton texte a un contexte. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait qu'il communique une idée claire. Et voilà pourquoi on tient compte des règles de grammaire. On regarde le temps des verbes. On regarde le singulier et le pluriel. Combien de fois j'ai entendu dans des repas du Seigneur, par exemple, que le texte nous invite à nous approcher de lui, pierre vivante. Tu vous rappelez de ce texte-là? Approchez-vous de lui, pierre vivante, précieuse, etc. Puis on dit, ah, c'est vrai qu'on est rejeté, mais hey, on peut s'approcher de lui parce que nous sommes des pierres vivantes. Mais le texte ne parle pas du tout de nous. Hein? C'est le Seigneur dont il parle. Approchez-vous de lui, la pierre vivante. C'est lui la pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu et rejetée par les hommes. C'est Jésus, parce que le verset suivant, ça c'est dans 1 Pierre 2, 4 et 5, le verset suivant dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes. » Alors là, c'est nous. Là, c'est vrai que c'est nous. C'est la grammaire et la syntaxe qui changent l'approche de ce passage. Un texte très connu d'Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car, vous direz plus jamais car pour rien. Hein? Car quoi donc? Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et la suite, c'est quoi? Et cela ne vient pas de vous. Grammaticalement parlant, cela, c'est quoi? Il ne faut pas répondre. Hein? Répondez pas. Réfléchissez. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oh! Est-ce que c'est la grâce? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est le fait d'être sauvé? Est-ce que c'est les trois? Ça pourrait lancer des débats interminables, hein? Mais ça prouve quelque chose. Je dois porter attention au texte. Vraiment porter attention au texte pour essayer au moins de faire une proposition puis de voir de quoi ça parle exactement. C'est impressionnant, tous les liens grammaticaux. Et l'histoire, c'est le contexte historique et culturel de l'Écriture. La Bible n'a pas été donnée à des Occidentaux du 21e siècle. Elle a été donnée au Moyen-Orient de l'époque, dans le bassin méditerranéen de l'époque, avec les pouvoirs et les puissances de l'époque, etc., avec toute la culture et la manière de voir les choses de l'époque. C'était un autre monde qui était différent du nôtre. Fait que, surtout pour un Canadien hein, qui vient des pays nordiques là-bas, là, quand un Canadien arrive en Afrique, et puis là qu'il découvre la culture africaine, oui, c'est un choc, c'est vrai, mais c'est un choc hyper intéressant. Parce que moi, quand je suis entré en Afrique, j'ai eu l'impression d'entrer dans le monde de la Bible. J'ai eu l'impression de me rapprocher un peu plus de la Bible, simplement parce qu'il y a beaucoup plus de points communs entre la culture africaine et biblique que celle canadienne et biblique. Il n'y a rien de l'Amérique du Nord hein, dans la Bible. Rien du tout. Alors, quand je suis arrivé en Afrique et j'ai vu certains aspects de la culture africaine, ben c'est vrai que, waouh, j'ai vu les choses différemment. Hein? Différemment. C'est un peu comme chez nous, mais si vous voulez de l'eau, vous faites quoi? N'est-ce pas? Et au Québec, il y a, comment on dit, il y a un lac pour 8 personnes. Il y a 1 million de lacs au Québec. Alors, nous, de l'eau, là, c'est pas du tout un problème. Il y en a partout! Et puis, en plus, ben, quand tu arrives au Mali, à Bamako, en dehors même de la capitale, tu es en brousse, un petit village, et tu vois la file à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau dans le puits. Tu comprends très différemment les choses. Tu vois maintenant différemment, tu vois. Ah, mais voilà. Et moi, dans ma petite tête de Canadien, hein, l'eau, ça a toujours été. Et là, je vois différemment. Ben, j'ai eu l'occasion d'aller marcher pendant un après-midi dans le désert de Judée, en Israël. On se baladait un peu partout, ma femme et moi, dans le désert. Puis, c'était deux couples, en fait. Et puis, on est arrivé à En-Gedi. Avec, je n'avais plus d'eau et moi, je dois boire de l'eau en quantité quand je suis dans une activité au soleil, tout ça. Là, je n'avais plus d'eau, j'étais en train complètement de faire une déshydratation majeure. Et là, j'oublierai jamais ce que j'ai vu à En-Gedi. Cette source qui descend d'en haut, là, et les biches qui se rapprochent du torrent pour boire. Puis, j'ai fait la même chose, hein. Je buvais à même le torrent de En-Gedi. Dans le désert de Judée. Là, j'ai compris certains psaumes. J'avais jamais soupiré après de l'eau comme une biche. Mais là, j'avais soupiré et là, j'avais trouvé la source. Et voyez-vous comment les choses peuvent être différentes? Nos maisons n'ont rien à voir avec les maisons d'Israël. J'entends les miennes en particulier. Hein, chez moi, les maisons avec les immenses toits, les pignons en bardeaux, là, et puis c'est haut, hein, très souvent c'est haut. Et puis jamais il m'est venu à l'esprit de construire une balustrade autour du toit de ma maison, comme le dit la loi mosaïque dans Deutéronome 22, je pense. On parle de ça. Mais quand j'ai vu les maisons toit plat avec des petits-enfants de 4-5 ans jouer sur le toit des maisons, entre autres dans la vallée de la GN actuelle, là, il y avait des maisons palestiniennes avec des petits-enfants. Je pouvais leur jeter des shekels sur le toit de la maison. quand je les voyais, là, j'ai dit, ah, ben ça prend une balustrade, hein, parce que s'ils tombent, ils jouent sur le toit de la maison. Chez nous, c'est impossible. Enfin, si tu vois ça, c'est un petit voyou, hein? C'est un voyou qui vient s'amuser à taper sur le toit pour t'énerver. Autrement, tu ne vois pas ça chez nous, c'est pas possible. Voyez-vous comment, tout ce que j'essaie de dire, c'est la Bible a sa propre culture, a son propre contexte. Et il y en a tellement d'éléments comme cela qu'on doit comprendre, entre autres, sur des concepts qui nous échappent. Être nu dans le Nouveau Testament n'a rien à voir avec le fait d'être flambant nu, comme nous on le pense en lisant le texte. Il parle simplement de ne pas avoir le manteau extérieur. Et ça fait toute la différence. Ça change les données, ça change la vision. Regardez ce tableau et honnêtement, vous ne trouvez pas que ça a du sens d'interpréter la Bible en tenant compte du sens normal des mots dans leur contexte biblique, des règles de grammaire, parce que Dieu s'est révélé dans des langues compréhensibles et sensées. Paul a des pensées qu'il développe sur des phrases qui ne finissent plus. Tous ceux qui connaissent le texte d'Éphésiens 1, versets 3 à 14 vont vous le dire. Ça n'arrête pas, là. Et nous-mêmes, on met des virgules, alors que pour Paul, il n'y a rien du tout. C'est « Allez, tac, on continue. » Alors, est-ce que ça n'a pas du sens de tenir compte de tous ces éléments qui rattachent les textes? Est-ce que ça n'a pas du sens de tenir compte du moment où Dieu a donné sa révélation dans une autre époque, dans une autre région du monde, à une autre époque, dans un autre contexte totalement différent? Voilà pourquoi j'ai besoin d'enrichir ma connaissance du sens des mots bibliques, d'enrichir ma connaissance de la grammaire. Une petite anecdote. Moi, quand j'ai fait mon examen, qu'est-ce que j'emploierais comme exemple qui correspondrait? Quand tu as 16 ans à peu près, tu termines quoi, le lycée? OK, ça doit changer d'une région à l'autre, je présume, mais vous savez ce que je veux dire, hein? C'est avant qu'on aille, nous, dans le
secondaire.
Oui, bien, c'est le secondaire qu'on finit, là. On finit le secondaire chez nous, à l'âge de 16 ans. Tu as fait 6 années de primaire, 5 années de secondaire. Et là, c'est fini. Bon, secondaire 5, on termine. Moi, j'ai 18 ans parce que j'ai doublé. Parce qu'à l'école, ça ne vaut pas cher, comme on dit chez nous, ou ça ne vole pas haut, OK? Et là, je me présente à l'examen du gouvernement, ministère de l'Éducation, et en français, j'obtiens la merveilleuse note finale de 3%. En français, 3%. J'ai signé mon nom sur la feuille et je n'ai pas fait de faute. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu pitié. Ils m'ont donné 3%. Il n'y avait rien d'autre sur la feuille. C'est tout ce qu'il y avait. Mais pour avoir mon diplôme, je n'étais pas chrétien à l'époque, j'ai un peu triché. Et je suis allé voir un commissaire, je lui ai donné un petit peu d'argent en dessous de la table. Vous dites cette expression, lui donner en dessous de la table comme ça? Et il m'a fait un examen, tu vois, que j'étais là, oui, ici, j'écris quoi? Oui, OK. Puis j'écoutais les réponses et j'ai eu mon diplôme, ouais! Juste pour vous dire que je ne connaissais rien du tout au français. Et en lisant ma Bible, j'ai appris à découvrir que des prépositions et des conjonctions, ce ne sont ni des maladies, ni des médicaments. Ce sont des éléments grammaticaux qui m'aident à comprendre le texte de la Bible. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est juste que j'ai pris une voie détournée pour l'apprendre. C'est en apprenant le grec que j'ai appris le français. En fait, c'est drôle comme voie, mais moi, c'est le chemin que le Seigneur m'a fait parcourir. Passe par le grec pour apprendre ma propre langue. Et puis, j'ai découvert, à travers ces études-là, la richesse du texte de la parole de Dieu dans toutes ses expressions, non seulement grammaticales et syntactiques, mais encore aussi poétiques, avec une poésie remarquable dans le texte hébraïque. C'est hallucinant, c'est magnifique, magnifique. Et puis, je me suis dit que ça avait du sens d'honorer le texte de la parole de Dieu, puisque Dieu nous a donné les mots de la Bible, et tous les mots. Je crois à l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Ça signifie que je crois à l'inspiration de tous les mots de l'Écriture qui nous ont été donnés pour mieux comprendre. Et cette méthode d'interprétation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle honore le texte de l'Écriture. Elle lui donne la priorité. Il y a beaucoup d'autres éléments à considérer. comme les figures de style, par exemple. On n'interprète pas une parabole comme une promesse. On n'interprète pas non plus le narratif comme de la poésie. Il y a des éléments qui sont propres à chaque forme littéraire pour bien interpréter. Mais quand on les connaît et qu'on les applique, on se rend compte que, wow, c'est tout beau ce qu'on découvre dans l'Écriture. L'approche dont je vous parle peut être considérée en 7 étapes que nous allons appeler des étapes d'analyse. Et le mot, il ne veut pas être scientifique. Ce mot analyse veut simplement dire arrête-toi et porte attention au texte et à différents éléments qui le composent. L'analyse contextuelle, et franchement, c'est dans l'ordre, hein? Voici dans quel ordre on devrait approcher le texte. L'analyse contextuelle, elle cherche à savoir qui parle ou qui écrit, qu'est-ce qu'il dit, on pourrait même rajouter à qui il parle, où est-ce qu'on se trouve, à quelle époque, etc. Ce sont toutes les questions qui forment l'arrière-plan de la lettre. Qui étaient les Galates? Où vivaient-ils? Étaient-ils principalement des Juifs ou des non-Juifs? Qui s'adresse à eux? À quel moment de sa vie? Où on en est dans le développement de l'Église primitive? Est-ce que ça fait longtemps ou pas qu'ils sont sauvés? Les Hébreux, là, qui ont reçu une lettre, savez-vous que ça faisait suffisamment longtemps qu'ils étaient sauvés qu'ils auraient dû être tous des docteurs de la Bible, des enseignants, des docteurs, littéralement. Pourquoi? Ça faisait longtemps qu'ils étaient croyants et par la connaissance déjà qu'ils avaient parce qu'ils étaient juifs, des Hébreux, et avec celle qu'ils avaient maintenant comme croyants depuis longtemps, ils auraient dû être en mesure d'enseigner les autres. Mais savez-vous ce que l'auteur leur dit? Mais ce n'est pas du tout le cas, vous êtes que des bébés. Chez nous, on dit des bébés lala ou des bébés gougou. Oui. Des petits blocs, là. On va jouer avec des petits blocs avec vous. On ne peut pas aller plus loin que les petits blocs. Mais quand on réalise cela, c'est se dire que, franchement, c'était des chrétiens de longue date. Ça veut dire que l'Épître aux Hébreux a été quand même rédigée assez tard, mais avant 70, parce que le temple n'était pas encore tombé. Et là, je découvre des choses par rapport à ses destinataires, et ça va m'aider à mieux comprendre les arguments de l'auteur, parce que c'est une lettre adressée à eux. Hein. En plus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de bien recevoir ces quelques mots d'exhortation. C'est une lettre d'exhortation hébreu. Voilà ce que c'est. Ça change quand on se pose ce genre de questions-là. Où on se trouve, à quel moment ça a été rédigé et où on va pour trouver ces réponses? D'abord dans le texte. D'abord dans le texte. On a fait ça, hein, Mathias, la semaine passée avec 1 Thessalonicien. Qu'est-ce qu'on a fait? Avant de rentrer dans le chapitre 4 que nous allons étudier ensemble, surtout les 8 premiers versets, on a regardé tout l'arrière-plan contextuel de Thessaloniciens, c'est qui ça? C'est à quel moment ça a été écrit? Par qui? Et on a commencé par regarder dans la lettre et on a relevé au moins 4 passages où il y avait des références très claires au contexte. On sait que les Thessaloniciens étaient ou avaient un bon témoignage dans toute la Macédoine et l'Achaïe. Donc la question c'est où la Macédoine et l'Achaïe? Et puis on découvre que c'est toute la Grèce de l'époque, divisée en 2 grandes provinces romaines. Mais on a des pistes à suivre dans le texte lui-même. Bon, après, peut-être qu'on aura besoin d'aller dans un dictionnaire sous Thessalonicien ou Thessalonique. Peut-être qu'on aura aussi besoin d'une Bible d'études comme MacArthur, avec l'introduction au début qui nous donne des réponses. Mais avant d'aller là, fouillons le texte nous-mêmes. Et quand on regarde dans Acte 17, au moment où l'Église de Thessalonique va être fondée, on découvre tout plein de choses sur qui ils étaient. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que c'était des Juifs ou surtout des Juifs ou alors surtout des non-Juifs? Et le texte répond parfaitement clairement à cette question. En fait, il y a eu quelques Juifs qui se sont convertis à Thessalonique, mais une grande multitude de non-Juifs. Ah! Ben ça change un tout petit peu au niveau de notre compréhension du fond de la lettre, de l'arrière-plan. L'analyse contextuelle cherche dans le texte s'il n'y a pas des éléments qui indiquent qui est l'auteur, qui sont les destinataires, quels sont les lieux géographiques, Quelle est la date de rédaction, si c'est possible? Voilà, on regarde toutes ces questions, qui, que, quoi, où, à qui, quand, etc. La deuxième étape, c'est l'analyse préliminaire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire le texte et relire le texte et le relire encore. Par exemple, on fait 1 Thessaloniciens 4 dans nos coachings cette année. Bon, dans la deuxième session qu'on a débutée ailleurs, mais pas encore chez Mathias, on a regardé le texte avec ses 18 versets. 18 versets dans le chapitre 4. Et puis là, la première chose qu'on se demande, c'est, premièrement, on lit le texte dans une version littérale le plus possible, Darby, ou peut-être second. Et puis là, après, on se dit, mais comment on pourrait diviser ce texte? Et comment on fait ça? On essaie de voir les éléments grammaticaux. Et puis, on remarque que Paul, à deux reprises dans cette section de texte, va dire « Ah, au sujet de » ou « à propos de ceci, de cela ». Donc, on voit clairement qu'il y a un changement de sujet. Bon, Mathias, tu sors. Non, c'est, je blague. Parce que lui, il est dans un coaching, on n'est pas rendu là, mais tu auras toutes les réponses. Alors, on va impressionner les gars. Alors, on se pose ce genre de questions dans le texte. Est-ce que je vois des indications? Et puis, il y a les marques de paragraphe aussi. Vous savez que il y a une raison qui explique pourquoi dans la Darby, il y a beaucoup moins de paragraphes dans le texte de la Darby que dans les autres versions. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un paragraphe est une interprétation. Quand tu fais un paragraphe, que tu crées un nouveau paragraphe, c'est parce que tu penses que la conversation ou le sujet précédent est terminé et on passe à autre chose. Et Darby savait très bien qu'il risquait d'influencer le lecteur en faisant des marques de paragraphe. Il en a fait quand même, mais beaucoup moins que la plupart des versions de la Bible. C'est ce qui rend la lecture un peu plus ardue, hein, parce que les gens ont besoin de paragraphes, d'espace. Les paragraphes sont comme une respiration dans un discours. Prends le temps de faire une pause, mon ami, là. Tu m'essouffles. C'est ce qu'on ressent souvent quand on n'est pas habitué à une Darby. Elle achève la phrase ou quoi, là? Tu vois, c'est plus difficile, mais c'est une question d'interprétation. Quand on fait l'analyse préliminaire, c'est qu'on regarde le texte au début et on essaie de diviser le texte en paragraphes, et s'il est déjà divisé, on regarde si on est d'accord ou non, et on a le droit d'être d'accord ou on a le droit de ne pas être d'accord. Et rappelez-vous que les chapitres et versets, c'est arrivé très, très tard, ça. Savez-vous, c'est quand la première fois qu'une Bible a été divisée en chapitres et versets? 1553, exactement. 1553. J'ai cette Bible à la maison. C'est une Bible d'Olivetan qui a été divisée pour la toute première fois, et ce, toute langue confondue. C'est en français qu'on a eu pour la première fois dans le monde entier, une Bible divisée en chapitres et versets, en français, que c'est arrivé, pas en anglais, pas dans une autre langue. 1553, c'était la fameuse Bible d'Olivetan qu'il avait fait 18 ans auparavant, en 1535. Alors, la division, elle est un petit peu arbitraire. C'est pas lui qui l'a inventée, hein, c'est plutôt des éditeurs d'un Nouveau Testament en grec et qui ont imposé, Robert Étienne, pour ne pas le dire, imposer au texte sa division. Il y avait aussi, pour l'Ancien Testament, des hébraïsants qui avaient fait cela. Et il y avait deux divisions différentes. C'est ce qui explique pourquoi il y a un décalage entre Darby et second. Parce qu'ils n'ont pas suivi exactement la même tradition de séparation des versets dans l'Ancien Testament. Entre autres, les psaumes. L'entête des psaumes est parfois numérotée dans une version et pas dans l'autre. Alors, ça explique le décalage. Et des fois, le décalage, il est beaucoup plus important. Dans les prophètes, on peut aller jusqu'à un chapitre entier qui décale. Il y a 3 chapitres dans Malachie, dans certaines Bibles, il y en a 4 dans d'autres. Donc, ce n'est pas inspiré. Ça date du 16e siècle. On a le droit de remettre en question les divisions chapitres versets. Parfois, il faut aller au-delà. Au-delà d'une division pour avoir l'idée générale. C'est ce qu'on appelle l'analyse préliminaire. Je regarde le texte, je regarde la discussion en cours, j'essaie de voir où ça commence, où ça finit, et je ne me fais pas trop influencer par les divisions en chapitres et versets, ni par les marques de paragraphes. J'ai le droit de remettre tout ça en question. Ce n'est pas inspiré, c'est arrivé très, très tard, et avant, il n'y en avait pas du tout. Alors voilà, on lit, on relit, et puis si on est capable de bien diviser le texte, nous on s'est rendu compte que 1 Thessaloniciens 4 se divisait très bien selon les marques de paragraphe de Darby. Donc versets 1 à 8, 9 à 12, 13 à 18. Et on trouvait que ça avait du sens, alors on a regardé les 8 premiers versets d'abord, puis on s'est dit, concentrons-nous là-dessus. Après, il y a un petit changement de discussion, quoiqu'il y a aussi des liens, hein? Même si on change de discussion, on peut rester dans une même thématique générale. Après avoir fait cela, on porte une attention plus particulière au texte. Et l'analyse textuelle consiste simplement à comparer les versions françaises. Si vous avez le privilège de lire l'hébreu, l'araméen et le grec, vous pouvez aller directement dans le texte original et vous pouvez lire ce texte-là, vous formez votre propre compréhension, idée par rapport à ce que vous lisez. Vous avez les mots du texte original, vous savez ce qu'ils veulent dire dans chaque contexte et ça prend du temps avant d'en arriver là. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de consécration et beaucoup de temps là-dedans. Mais si on n'a pas ça, et la majorité des chrétiens n'ont pas cette connaissance, on a l'outil de comparaison. Et en français, est-ce qu'on ne doit pas admettre qu'on est vraiment richement béni d'avoir toutes ces versions françaises? Ça nous permet de comparer les textes et de voir des nuances qu'un traducteur va avoir choisies plutôt qu'un autre. Et ça nous expose à une profonde richesse du texte de la parole de Dieu. Et je trouve que c'est hyper important de faire cette démarche-là, de comparer. Et quand vous le faites, n'oubliez pas la théorie de traduction. Comparez des tomates avec des tomates. Ne comparez pas une seconde ou une Darby avec parole vivante au départ. C'est sûr que ça va être différent. Commencez plutôt par second Darby. On compare second Darby, la Jérusalem qu'on peut mettre là-dedans. La plupart des villes catholiques sont très littérales. Ça, c'est chapeau, hein, parce qu'ils ont fait un beau travail. On peut remarquer la littéralité là-dedans. Puis là, on se dit, OK, ah, il a plutôt choisi tel mot. Ah, OK, c'est différent un peu ici, la structure grammaticale. Et là, on peut noter les différences. Et ça va débuter, en fait, ou ça va continuer à alimenter notre réflexion sur le texte. On compare les versions françaises. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de logiciels ici, mais si vous utilisez, par exemple, Logos Bible Software, ou le logiciel biblique Logos, il est en français maintenant. C'est assez impressionnant, l'outil de comparaison. On peut mettre plusieurs versions françaises, l'une au-dessus de l'autre, et avoir en bleu, par exemple, les différences majeures. Pas les différences qui ne changent pas grand-chose au sens du texte, mais celles qui sont vraiment importantes, qui amènent une autre richesse, je dirais, ou un autre aspect de la profondeur. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller en ligne sur le site L'Évangile, dans un seul mot, pas d'apostrophe, pas d'accent, l'évangile.com. C'est un très beau site Internet qui a un outil de comparaison des versions françaises remarquable. Tu as toutes les Bibles Second réunies ensemble, et ensuite plusieurs versions protestantes et catholiques. On peut comparer les versions de Bible. L'analyse verbale, c'est pas que les verbes, ça vient de verbum, latin qui veut dire mot. Donc l'analyse des mots, là on doit chercher la signification des mots. Je vous donne un exemple. Le mot foi, quel sens a-t-il? On ne peut pas répondre rapidement à cette question. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a trop de sens. Il a peut-être une quinzaine de sens différents, le mot foi, dans l'Écriture. Il y a des sens dominants et il y a des sens secondaires, des sens dérivés. Je vous donne un exemple. La foi. La foi est-elle transmissible? Est-ce qu'on peut transmettre la foi à quelqu'un d'autre? Tous les parents feraient ça avec leurs enfants, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut transmettre la foi? Pourtant, Jude dit que oui. Oui. Exact. Jude dit, je t'exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, il y a un aspect de la foi qui est transmissible. Donc, le mot foi a un sens différent. Et remarquez ce qui est dit dans le texte. Tu sais, on dit, regarde les mots. La foi qui a été transmise, une foi transmissible. Ce n'est pas la foi qui sauve en Jésus, c'est sûr et certain. Mais cette foi qui est transmissible, elle l'a été une fois pour toutes.
Wow!
Quelle foi peut être transmise au sein au pluriel à l'Église, une fois pour toutes? C'est votre Bible. La foi, c'est la saine doctrine. C'est l'enseignement des apôtres. Pourquoi on l'appelle la foi? Parce que la foi repose sur l'enseignement doctrinal des apôtres. Donc, sur l'Écriture, sur la révélation de Dieu. Alors, le mot foi, oui, parfois, il signifie l'acte de confiance qui saisit le don gratuit de Dieu par sa grâce. Mais parfois, la foi, c'est la saine doctrine. C'est ce qu'on appellerait la foi objective. Et la foi subjective, c'est celle que moi j'exerce pour être sauvé, hein, tu vois, pour saisir le message. Alors cette foi-là, elle est transmissible parce qu'elle a été donnée à l'Église par les apôtres. C'est la saine doctrine. Voyez-vous à quel point c'est important? Puis je pourrais faire le même exercice avec le mot « grâce ». Vous seriez surpris de voir tous les sens du mot « grâce ». Je me rappelle une fois d'avoir dit, en citant cet exemple, j'étais quelque part dans le monde, là, puis j'ai dit, vous savez, la grâce, c'est merveilleux, mais parfois, il faut s'en méfier. C'est dangereux de dire ça, hein? Vous réalisez? Mon but était simplement de choquer l'auditoire pour les réveiller. Et croyez-moi, ça a bien fonctionné. Dès que j'ai dit, la grâce, c'est super, mais parfois, il faut s'en méfier, parce que selon les proverbes, la grâce est trompeuse. De quoi je parle? Le charme. Donc, le mot grâce qui s'écrit exactement pareil que la grâce en Jésus-Christ veut dire, dans ce contexte-là, le charme de la femme séductrice. Voilà pourquoi la grâce est trompeuse. C'est un bel exemple, parce que on ne se rend pas compte à quel point des mots semblables ou qui s'écrivent exactement pareil peuvent avoir tellement de sens différents. Portons attention, posons-nous la question, qu'est-ce que ça signifie? Et peut-être qu'on devrait aussi se demander, est-ce au sens littéral ou figuré? Si je vous parle de la chair, à quoi vous pensez? Principalement, je vous dis la chair. C'est ça le premier sens qui vient à l'esprit avec le mot chair. Ben, tu as raison, parce que c'est un sens de la Bible. Mais c'est étonnant parce que, normalement, on pense au péché, quoi. C'est la chair. Les péchés de la chair, les désirs de la chair. Vous connaissez ce sens-là? Ah, c'est pas le premier sens? Ah ben, chez nous, en tout cas, je peux vous dire que c'est le premier sens qui va venir à l'esprit d'un Québécois qui est dans sa Bible. Et s'il lui dit, c'est quoi la chair? Ah, la chair, ça, c'est le monde, quoi. C'est les choses du monde. C'est le péché, c'est la nature humaine pécheresse, tu vois. Mais la chair n'a pas tout le temps ce sens-là. Parfois, le mot chair a le sens d'une descendance, tout simplement. De qui est issu le Christ, c'est-à-dire de qui? De David, selon la chair. Ça n'a rien à voir avec même la chair matérielle de son corps actuel ou alors du péché, bien entendu. Mais c'est un sens de postérité, de descendance. Et ce mot « chair », il peut être au sens figuré, il peut vouloir dire la matière humaine, ou même « autre est la chair de tel animal, autre est la chair de… » dans 1 Corinthiens 15. Mais parfois, comme dans Romains 8, c'est la chair qui est la nature humaine pécheresse. Alors voilà, le sens peut être tellement différent. Il faut trouver la signification en tenant compte du contexte. L'analyse grammaticale, on pousse un tout petit peu plus loin maintenant. Ce n'est pas que le sens des mots, mais aussi la forme et la fonction des mots. On porte attention si c'est un masculin ou un féminin. Parfois, ça peut changer tellement de choses. Que c'est au singulier ou au pluriel. Que c'est au passé ou au futur ou au présent. Il faut insister là-dessus. Avez-vous déjà remarqué la beauté du temps des verbes dans Apocalypse 1? Et là, la division de versets, mais elle est nulle, c'est pas possible. C'est le verset qui... On est obligé de dire 5B. Apocalypse 1, 5B. Hein? Oui, à celui qui nous aime, qui nous a... Ben là, ça dépend. Si on est dans la Darby, c'est lavé. Si on est dans la seconde, c'est délivré. Il y a une seule lettre en grec qui fait la différence entre laver et délivrer. C'est deux mots qui s'écrivent exactement pareil, à l'exception d'une lettre. Et c'est pour ça qu'il y a probablement il y a eu une confusion chez les scribes qui ont copié ces textes-là. Mais le texte dit bien à celui qui nous aime au temps présent et qui nous a lavés ou délivrés au temps passé. C'est super important la forme des mots ici. Parce que l'amour de Christ est toujours actuel. Mais sa délivrance, elle est accomplie, c'est réglé. On est lavé, on est délivré. Il ne parle pas de la sanctification progressive ici, il parle de la rédemption à la croix. Il nous aime toujours. Il nous a délivrés, c'est réglé, depuis le moment où on a cru. Ça, c'est ce qu'on veut dire par forme et fonction. Vous êtes dans un passage. Vous devez porter attention au verbe. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Le mode indicatif. C'est ce qu'on cherche en premier. Après, le mode impératif. Ce sont les deux modes les plus importants du point de vue de l'analyse d'un texte. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Après cela, ce sont les modes des verbes principaux. Après cela, on va fouiller et puis on va chercher des verbes au participe. Pourquoi? Parce qu'un verbe au participe modifie l'action d'un verbe principal. Le participe, ce sont les verbes qui finissent en ant. Je marche en mangeant une pomme. C'est quoi l'action principale que je fais? C'est marcher. C'est ce que je fais. De principal, c'est de marcher. Je marche, mais je le fais en mangeant une pomme. Donc, mon verbe manger modifie mon verbe marcher. Vous voyez le point? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens au chapitre 5, « Soyez remplis de l'Esprit. » Regardez ce qui suit dans la Darby. On le perd complètement dans une seconde. Mais si vous lisez la Darby de Éphésiens 5, versets 18 à 20, « Soyez remplis de l'Esprit, c'est un commandement, c'est un verbe impératif présent. Soyez remplis de l'Esprit en chantant, en rendant grâce, en psalmodiant, en vous soumettant les uns les autres, etc. » Tous les participes modifient le verbe « soyez remplis de l'Esprit ». C'est quoi le point important de Paul dans le passage? Soyez remplis de l'Esprit. Et comment on y arrive? Et quel sera le résultat? Tu chantes, tu rends grâce, tu psalmodies, hein, tu loues le Seigneur, et vous vous soumettez les uns aux autres. Super! Qu'est-ce qui m'a fait arriver à ça? Vous voyez que mon interprétation du texte repose ici sur la grammaire et la syntaxe. Super important! Les mots sont rattachés ensemble par des petits mots comme conjonction qui relient les idées. L'avant-dernière étape, on peut l'appeler analyse théologique ou doctrinale. Et la question ici, c'est qu'est-ce que dit la Bible ailleurs? Tu vois, quand on conclut quelque chose dans un texte, assure-toi que la Bible dit la même chose ailleurs. Qu'il y a toujours un passage quelque part qui va s'harmoniser avec la parole de Dieu, qui va montrer qu'elle est harmonieuse, qu'il n'y a pas de contradiction. Donc, par l'analyse théologique, c'est on étudie les passages parallèles. Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage quelque part qui parle de cela? Tu sais, les armes hein, du combattant spirituel, Paul en parle à plusieurs reprises dans ses épîtres. Et donc, en les mettant ensemble, on voit son idée globale de ce qu'est le combat spirituel. On ne se bat pas avec des boucliers, des épées, des casques et des sandales et tout ce que vous voulez. On se bat avec, en disant la vérité. Hein? On ne compte pas de mensonges. Vous dites ça, compter des mensonges ou dire des mensonges? On ne ment pas. On est intègre. C'est la justice. On est intègre. On est toujours prêt à rendre témoignage pour le Seigneur. Ce sont de l'éthique, quoi. C'est une éthique morale, le combat spirituel. Ce n'est pas de partir en guerre avec une épée, c'est simplement d'être des chrétiens authentiques. Voilà comment on remporte les combats. Qu'est-ce que dit la Bible ailleurs? Et finalement, l'analyse historique, ça, malheureusement, c'est cette étape-là qu'on va tout de suite d'habitude. Quand on lit un texte, on ne comprend pas trop, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le commentaire de quelqu'un. Mais on devrait le faire à la fin, à la toute fin. L'analyse historique. Pourquoi j'ai appelé ça historique? Simplement pour savoir ce que d'autres ont dit dans l'histoire. Ce sont les commentateurs. Qu'est-ce que Darby a dit là-dessus? Qu'est-ce que MacArthur dit? Qu'est-ce que le commentaire biblique du chercheur dit? Et en utilisant ces outils-là, maintenant je peux peut-être découvrir quelque chose qui m'a complètement échappé dans mon étude Ou alors, ça va m'aider à confirmer ou infirmer ce que je pense. Disons que tu penses quelque chose. Assure-toi d'aller voir s'il n'y a pas d'autres qui pensent comme toi. Et j'ai un bon conseil. Si tu es tout seul à penser quelque chose, commence à refaire tes devoirs. Commence à refaire tes devoirs. Parce que fort probablement que tu t'imagines quelque chose ou alors... Et ça nous arrive tous, moi ça m'est déjà arrivé, de comprendre quelque chose dans un texte. Ah, je dis, c'est merveilleux, voilà ce que ça signifie. Et là, je commence à lire des commentaires à la fin, puis il n'y a personne qui pense comme moi. Ouais, je dis, OK. Probablement que je suis dans le champ, comme on dit chez nous. Vous dites dans les choux, je pense, hein? Nous, on est dans le champ. Parce qu'il y a autre chose que le chou, hein? Il y a toutes sortes de choses. Mais quand tu finis dans le champ, c'est pas bon signe. Tu sors de la route avec ta voiture. Pff! En québécois, on dit, on vient de prendre le clou. On prend le clou. Alors, que disent les autres? Mais ça, on le fait à la fin. Puis c'est merveilleux de pouvoir compter sur d'excellents outils d'étude. Je vais terminer là-dessus, puis après, on aura une période de questions. Voici ce que moi, je recommande. Si, mettons, ça c'est québécois, mais disons que vous voulez avoir mon opinion qui vaut ce que ça vaut, hein, c'est l'opinion de n'importe qui, mais si je vous dis, par exemple, moi, voilà ce que je crois qu'on devrait avoir comme livre dans notre bibliothèque. On devrait tous avoir ces livres-là. Voici ce que je vous conseillerais. D'abord, une traduction littérale comme Darby. En fait, on devrait avoir le Darby. Ah, ici, je n'ai pas besoin d'essayer de convaincre les gens. Hein, c'est merveilleux. Chez nous, par contre, j'ai un petit peu plus de travail à faire. Mais bon, je l'explique aux gens pourquoi elle a une telle valeur, la Bible Darby. Ensuite, une Bible d'études. C'est une autre traduction littérale en plus, et c'est avec l'excellent commentateur John MacArthur. Donc, il y a ses commentaires, il y a les introductions, il y a une harmonie des évangiles. Vous savez, c'est quoi une harmonie, hein? C'est pas juste de mettre les passages parallèles côte à côte. Ça, c'est ce qu'on appellerait les évangiles en parallèle. Il existe un livre comme ça. Très bien, d'ailleurs. Mais une harmonie, c'est une reconstruction chronologique des quatre évangiles mis ensemble. J'ai une question pour vous. Combien de fois Jésus a renversé les tables des changeurs et a purifié le temple? Déjà, ma question, elle est embêtante. Hein? Ben, la réponse, c'est deux fois. Jésus a purifié le temple au début de son ministère public. Ça, c'est dans l'Évangile selon Jean. Et Jésus a purifié le temple à nouveau dans la semaine de la Passion, au tout début, à la fin de son ministère public. Et ça, c'est dans les trois synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Deux fois. Qu'est-ce qui nous amène à ça? Reconstruction chronologique du récit des quatre évangiles, ce qu'on appelle une harmonie des évangiles. Et là, chaque étape de toute la vie de Christ et de son ministère est mise étape après étape, 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à, je ne sais pas combien d'étapes, il y en a plus de 100, je ne sais pas combien. Et puis là, après, on arrive à la toute fin, Jésus remonte au ciel. Et là, on a toute la reconstruction chronologique. À quel moment Jésus a-t-il appelé les 12 à le suivre? Pas au début, après une année et demie de ministère public, en plein milieu. Ça faisait un an et demi que Jésus avait commencé son ministère public quand il a dit aux 12, « Vous êtes les 12 apôtres, maintenant vous êtes en permanence avec moi. » Pas au début. Il y a quelques-uns qui ont suivi, après ils sont retournés à la pêche, et là Jésus a exercé tout son ministère en Judée, en Samarie, il est arrivé en Galilée, et quand il a rencontré les gars qu'il avait déjà vus en Judée, hein, au début, Pierre, André, Jacques, Jean, il leur a dit, OK, les hommes, fini, maintenant vous êtes pêcheurs d'hommes. Ça fait un an et demi que c'est écoulé. Mais quand on lit Marc, ça arrive au début de Marc. Alors on pense que c'est au début du ministère de Christ, mais Marc a oublié toute la première partie du ministère public. Il s'est concentré uniquement sur la dernière année et demie. C'est une harmonie des évangiles qui va vous révéler cela. Et vous en avez une dans la Bible MacArthur, entre autres. Une concordance, ça en prend une. Bon, vous allez comprendre que moi, je travaille avec Publications chrétiennes aussi. Je suis éditeur chez Impact. C'est aussi l'éditeur qui publie les quelques livres que j'ai publiés. Et puis, on a fait une concordance, moi et Claudine, la femme à Nathanaël. Et puis, ça remonte à... 15 ans et plus. Puis on a fait cette concordance-là. Elle est basée sur la version second NEG, parce que c'est la plus répandue dans le monde francophone. Mais ça vous prend une concordance. Et vous pouvez utiliser une autre. Il y en a une avec la Darby aussi, une concordance qui existe. Et donc, ça nous permet de chercher, par exemple, toutes les occurrences d'un mot et voir les différents contextes où ça apparaît. Un dictionnaire biblique, il y en a quelques-uns qui existent maintenant sur le marché. Le plus solide d'un point de vue doctrinal, c'est celui-là, celui qu'on appelle le dictionnaire biblique d'Emmaüs. René Pache a été l'éditeur original et Pache, comme MacArthur, était un homme très conservateur, très attaché aux Écritures, très solide. Alfred Kuhn en a fait une révision au début des années 90, je pense en 92, excusez. Puis, qui est très, très bien. Il a gardé l'esprit de Pache dans les articles. Donc, je n'ai pas vu nécessairement la doctrine de Kuhn, qui parfois, on peut être en désaccord un peu avec. Mais voilà, c'est un excellent dictionnaire. Soyez prudents avec le grand dictionnaire de la Bible des éditions Excelsis. Parfois, sous certains articles en lien avec l'Ancien Testament, on sent une tendance libérale. Donc, on sent qu'il y a comme un aveu de haute critique et on n'aime pas trop ça. Donc, pour moi, ce n'est pas le meilleur dictionnaire, celui-là. Lui, par contre, aucun doute, est impact et sur le point, mais ça, c'est relatif dans le monde de l'édition. On espère publier bientôt le dictionnaire des éditions Impact. Mais on a déjà un autre dictionnaire, celui que j'ai édité sur les mots de la Bible. Le dictionnaire, mais je pense qu'on en a amené quelques copies. Ben, on, c'est plutôt la maison de la Bible d'ici, qui en a derrière, hein, quelques copies. Donc, le dictionnaire des mots bibliques, ce qui est intéressant avec, c'est qu'il reprend les mots français, mais pour chaque mot français, vous allez découvrir quels ont été les mots hébreux, araméens et grecs pour traduire ce mot français. Mais quand le mot ne correspond pas dans la traduction française de second, par exemple, eh bien, on aura l'autre mot qui a été choisi à la place. Donc, ça nous permet de voir que, malgré qu'on a un mot peut-être différent, peut-être que c'est patience dans la seconde, alors qu'on aurait dû lire endurance, eh bien, ce sera sous endurance, mais il y aura le mot patience dans le texte pour nous indiquer comment second a traduit. Voilà, c'est un dictionnaire qui nous aide aussi à faire le pont entre des concepts de l'Ancien et du Nouveau Testament du point de vue des mots. Alors, voilà pourquoi je vous encourage à vous le procurer. En plus, un outil francophone, hein, on n'en a pas beaucoup. Pour la doctrine ou la théologie, l'ouvrage de John MacArthur et Richard Mayhew, La théologie systématique, si c'est trop pour vous, je ne sais pas s'il est arrivé ici à la Maison de la Bible, mais il y a le condensé. Mais je ne me rappelle pas le titre. Mais c'est le même ouvrage, mais vraiment condensé, avec que les grandes lignes. S'il n'est pas arrivé, il va arriver. C'est juste une question de temps, parce qu'il est fait maintenant. Mais là, vous, par exemple, vous voulez trouver quelque chose sur, je sais pas, l'aspect de la rédemption. Qu'est-ce que c'est que l'expiation? Ben, vous allez là-dedans, dans la doctrine du salut, expiation, tout est expliqué avec le contexte des passages. Au niveau des commentaires, voilà ce qu'on a probablement de mieux en français au niveau exégétique. Les commentaires bibliques du chercheur Ancien Testament, Nouveau Testament, fait par le séminaire de Dallas aux États-Unis, c'est excellent parce que ce commentaire-là, il est vraiment intègre. Et quand il arrive sur un verset qui pourrait avoir plus qu'une interprétation, parce qu'on n'est pas certain absolument à 100%, eh bien, il va te donner les différentes possibilités, mais toujours en démontrant quelle est la meilleure probable. Donc, c'est quand même très intègre comme approche. Ce n'est pas tout qui est commenté, mais presque tout le texte de vos Bibles. Les commentaires de MacArthur, on couvre tout le Nouveau Testament, en 4 volumes d'ailleurs, on les a en format 4 volumes. Donc, ils existent. Voilà. Ce sont les outils d'étude. J'ai terminé. Franchement, si vous voulez une bibliothèque, je vais le laisser comme ça, si vous voulez une bibliothèque qui peut ressembler à quelque chose qui peut couvrir à peu près tout, soit au niveau de la doctrine, soit au niveau des mots, etc., ça ressemblerait à ça. Voilà. Question, et après on va terminer.
Merci beaucoup, Gilles. Première question, est-ce qu'on pourra disposer de, en version PDF de ton PowerPoint d'aujourd'hui.
Très volontiers.
Parce qu'il y a des amateurs.
Alors, je vais te l'envoyer.
Voilà.
Je peux t'envoyer le PowerPoint et ceux qui le veulent, vous le convertissez en PDF.
D'accord.
Ça va super bien. OK. Faut juste me le rappeler, hein, parce que oui, les chances que moi je l'oublie sont très élevées.
Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai une question. Je sais que je parle assez fort.
J'ai une question par rapport aux concordances. Est-ce que tu peux nous parler des numéros Strong?
OK. Oui, puis j'apprécie la question parce que Strong n'est pas un lexique. Strong est une concordance. Et Strong, tout ce qu'il fait, c'est qu'il t'indique par quel mot français Louis II a traduit tel et tel mot hébreu, araméen et grec. Et il faut savoir que Second a beaucoup diversifié le vocabulaire, parce que Second cherchait avant tout à créer une élégance de la langue française dans sa traduction. Le verbe hébreu « beau », qui signifie littéralement « entrer », ça c'est le sens primaire. Il a peut-être une dizaine de sens apparentés, « aller »,« venir », »,« descendre ». « Beau » veut simplement dire « prendre une direction », quoi. Second a traduit « beau » à l'intérieur des idiomes ou pas, par 130 expressions différentes. OK, c'est peut-être beaucoup, là. Je peux convenir qu'un mot hébreu comme « beau », qui est très général, peut avoir 10 sens différents. 130! Houhou! Alors, il ne faudrait pas, quand on utilise « strong », comprendre que le verbe « beau » peut signifier ceci, cela, ce... Non, 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 non. Second a décidé de traduire « beau » par « ceci, cela, etc. » Voilà comment on doit utiliser « strong », point final. Si, parfois le sens sémantique est donné un peu, mais il faut quand même être prudent avec « strong ». C'est avant tout une concordance et pas un lexique. Le dictionnaire des mots bibliques ici est davantage lexical. Davantage. Même s'il repose sur la seconde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu très souvent mettre entre guillemets la façon dont Second avait traduit pour dire « c'est vrai qu'il a pris ce mot-là, mais en fait, on est en train de parler de condamnation ici, par exemple, et pas de jugement. Condamnation, c'est le prononcé du verdict. Jugement, il y a le processus là, du procès là, devant le juge. Alors, il y a une différence entre les deux. Donc, si Second a pris un autre terme qui pourrait amoindrir le sens de la condamnation dans le verdict, on l'indique. C'est la force de ce dictionnaire. Ça, c'est un vrai dictionnaire, je dirais. C'est pas le summum, parce qu'on est dépendant d'une version. Un vrai dictionnaire, ce serait de prendre les mots grecs et de les expliquer carrément en français, qu'est-ce que ça signifie. Et ça, c'est en cours de route. C'est en cours de route. Il y a un lexique qui est en train d'être monté, et je pense qu'il va rendre de précieux services. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà.
D'autres questions?
Tu as parlé plusieurs fois du contexte, l'importance du contexte pour interpréter correctement. Et il me semble que dans ce que tu as développé, c'est plutôt le contexte du passage, dans quelle partie se trouve le passage, qu'est-ce qui est dit avant, qu'est-ce qui est dit après, le contexte dans la parole. Et il y a une autre question qui se pose souvent dans la compréhension, qui est le contexte plutôt culturel, historique, mm-hmm. et de choses qui ne sont pas dans la parole.
Oui, absolument.
Et parfois, ça pose des vraies questions,
oui.
parce qu'on dit, oui, mais pour bien comprendre ce passage, il faut savoir qu'à cette époque, dans cette ville, il y avait telle ou telle chose, il y avait etc.
Oui.
Et
oui.
alors... Ça peut amener oui. parfois à dire du coup un peu différemment de ce qui serait, ce que tu as dit tout à l'heure, la première compréhension du texte, parce qu'on met en avant ces particularités historiques que maintenant on connaît, et on dit du coup il faut savoir que à cause de ce qui se passait à cet endroit-là, de tel culte, de telles habitudes, en fait le passage veut dire ça. Comment est-ce que tu... Quelle est la place que doit prendre ce contexte qui, encore une fois, qui n'est pas le contexte qui est donné dans la parole, mais qui est ce qu'on connaît par des connaissances scientifiques?
Oui.
D'un contexte de voilà.
Au séminaire théologique, j'enseigne deux cours, herméneutique 1 et herméneutique avancée. Donc, dans herméneutique 1, c'est à peu près l'ensemble de ce qu'on a vu aujourd'hui, tu vois, mais en mode accéléré, hein, parce que je passe 40 heures à enseigner ces cours d'habitude, là. Et puis, herméneutique avancée, là, on va plus loin. Par exemple, comprendre la société juive à l'époque du Seigneur. C'est, on a des ressources qui font ça en français, et là, on va plus loin. Là, on regarde davantage tout l'aspect, oui, sociétal, culturel, même géographique de l'époque. On a même une formation qui explique avec des cartes et des crayons comment la Palestine de l'époque se développe, hein? Par exemple, les déplacements de Jésus entre Cana de Galilée et Capernaum, où c'est toujours en pente descendante, le nombre d'heures que ça prend de marche, ou alors pour se rendre au puits de Jacob depuis Jérusalem par la route principale de la Samarie, pourquoi il arrive à midi en plein cœur du jour où il fait super chaud, il est parti à quelle heure? Tout ça sont des questions super intéressantes pour mieux comprendre. Mais ça, c'est dans l'herméneutique avancée. C'est simplement parce que je n'ai pas abordé aujourd'hui, il y avait beaucoup trop de matériel. Mais par contre, si ça vous intéresse, là, on parle du monde de la Bible. Donc, on peut aller chercher des ressources pour cela. On est actuellement, on est en train d'éditer une liste d'ouvrages francophones qui peuvent aider à comprendre l'arrière-plan de l'Écriture, comme le livre d'Alfred Edersheim, un juif, hein, qui a écrit un très bon ouvrage qui s'appelle « The Life and Times of Jesus the Messiah ». Il est en anglais, mais on a fait une version francophone abrégée d'une thématique semblable. Je ne sais pas si c'est directement de ce livre, mais qui s'appelle « La société juive à l'époque de Jésus-Christ ». C'est chez Édition Impact Héritage. Et ça permet de te baigner dans la culture d'époque pour comprendre beaucoup plus d'aspects de cette époque aussi. Donc, c'est simplement qu'on est en herméneutique avancée. Je n'ai pas touché pour ça.
Ma question était plutôt, c'est est-ce que parfois ce contexte est indispensable pour comprendre
et il l'est tout le temps.
Changer la compréhension qu'on a du passage.
Oui, puis écoute, je dirais qu'il l'est tout le temps. Du moins, c'est important d'avoir une connaissance générale. Ça, c'est le sujet que j'ai... Vous avez remarqué, j'ai été très bref en mentionnant l'incendie de Rome. Mais ça fait partie de l'arrière-plan du Nouveau Testament, hyper important pour comprendre l'Église primitive. Mais voilà, c'est dans un deuxième niveau. Si déjà on est très proche du texte biblique, on est déjà beaucoup mieux équipé pour interpréter. Et puis après, ben voilà, on peut parler de, tu vois, dans une formation que je donne en herméneutique avancée, on étudie des extraits de Joseph Flavius, de Tacite, de Suétone, les historiens romains, des livres des Maccabées, tous les livres apocryphes, on fait une introduction, on présente qui est l'auteur, quelles sont les circonstances, etc. Là, on parle de vraiment d'avancée, mais c'est vrai que ça forme une culture générale. Même l'histoire de l'Église. Il faut comprendre le développement des trois premiers siècles, en particulier pendant la période de formation du canon du Nouveau Testament. Alors, oui, c'est important, oui, ça va jeter une lumière importante, mais ça aurait été beaucoup trop aujourd'hui de l'intégrer.
Et par exemple, dans cette même idée, si concrètement, je regarde ce que dit la parole aux Corinthiens, moi je me dis, bon, ben, je ne suis pas Corinthien, les Corinthiens, à cette époque, il se passait ça. Est-ce que finalement, ça ne résonne pas tant pour moi aujourd'hui, ou finalement, ça appartient à mon contexte? Finalement, je peux faire peut-être dire des choses parce que je ne vis pas le même contexte que les premiers destinataires.
Ben, moi, je dirais qu'en général, même si on manque de connaissances générales de la culture, de l'arrière-plan, qui sont des connaissances qui ne sont pas dans la Bible, déjà avec la Bible, on est en bonne posture, tu vois, pour bien interpréter. Déjà. Mais tout ce qu'on va acquérir de connaissances générales va beaucoup contribuer à améliorer notre compréhension du passage. Par exemple, je peux très bien comprendre toutes les fois où Paul parle de l'éthique sexuelle avec les Corinthiens. Je comprends très bien ses arguments parce que ça repose sur les principes moraux de la parole de Dieu. Et là, on voit très bien qu'à Corinthe, ils étaient complètement à l'écart dans ce sujet. Mais quand je connais mieux la culture corinthienne dans laquelle ils étaient, et que même on utilisait le verbe corinthianiser, tu vois, pour parler d'avoir une conduite sexuelle et morale, ben ça donne une lumière différente, ça donne un impact différent, ça jette un peu plus de lumière. Donc, ça va améliorer ma compréhension. Mais je crois que déjà, si on est fermement établi dans le texte biblique, avec les données qu'on a vues aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà très bien. Mais oui, on peut pousser davantage pour mieux comprendre ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pourquoi je disais que je lisais les livres des apocryphes. Tu vois, c'est un non-sens si je ne crois pas que ça a un impact. Mais quand j'ai lu l'histoire des Maccabées la première fois, je dis « Ah, c'est de ça dont il parle, la dédicace. Ah, je viens de comprendre. » Tu vois? Ben oui, là, je vois ce qui s'est passé. C'est tellement différent. Tu vois, ça a jeté une belle lumière sur le texte. Oui. Est-ce que je réponds bien à ta question, c'est...
Oui, ça me donne des éléments de réponse. Mais c'est vrai que parfois, on peut peut-être... j'ai l'impression de se dire, bon, ben, comme c'est réservé à des chrétiens dans un certain contexte, ils ne vivaient pas la même chose. Pardon, c'est vrai que j'ai parfois un peu l'impression que... voilà, on place le contexte tellement haut que finalement... Alors, ça peut parfois, à l'extrême, s'opposer finalement à un message universel pour toutes les églises de croyants à n'importe quelle époque.
Faut juste comprendre que le contexte culturel et historique est un élément, vous avez vu, il y a sept éléments d'analyse, est un élément parmi l'ensemble qui permet de mieux comprendre certains aspects de ce que l'auteur dit. Comme Paul qui s'adresse aux Corinthiens ou Paul qui s'adresse à Timothée, selon l'endroit où ils sont, selon ce qu'ils vivent, selon l'histoire de ces places-là, ça donne un éclairage vraiment différent, oui. Ça aide à comprendre. Okay. Peut-être une dernière, hein? Moi, c'est parce que je ne veux pas vous retenir. Moi, c'est...
Du coup, concernant l'analyse grammaticale, moi, c'est un point au personnel, je sais que je me suis dit, bon. J'avais pas entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça change les choses. Mais j'ai tendance à me méfier parce que justement, je me dis à traduction, je sais pas à quel point je peux me fier quand il y a des conjonctions de coordination, quand il y a des machins. Du coup, pareil, j'ai tendance à avoir une analyse plus dans le sens général des passages, quel est et à me méfier voilà, du côté grammatical. Est-ce qu'il y a des versions où on peut plus se fier que d'autres? Bon, du coup,
c'est un excellent point hein, parce que, par exemple, très souvent, second ne traduit pas la conjonction « car ». Parce que ça fait redondant. Parfois, Paul utilise trois fois consécutives « car, car, car ». Dans un même verset, deux fois de suite. « Car ». Puis là, tu te dis, mais franchement, du point de vue de la structure ou de l'élégance de la langue française, tu vois, c'est pas naturel. Mais c'est pour ça que si on compare du moins des littérales avec littérales, on va voir l'ensemble. Tu vois, s'il y a cinq traductions littérales qui mettent un quart, ben, il est là, forcément, il est là, tu vois. C'est vrai que quand on ne connaît pas les langues originales, ben, on dispose de quelque chose de moins que si on le connaît. C'est évident, c'est sûr. Mais avec l'outil de comparaison, on est capable de combler, en fait, cette lacune. La combler au moins en très bonne partie. Donc, on parlait de Darby et de ses conjonctions, puis il les met toutes systématiquement, en général, tu vois. C'est très rare qu'il laisse de côté une conjonction de Darby. Alors que second, lui, c'est loin d'être rare. Il le fait très souvent. Alors, c'est vrai que ça donne plus d'élégance, c'est plus fluide, mais tu perds les connexions entre les passages. Alors, voilà que la comparaison va être très utile ici. Alors, c'est pas de se méfier. C'est simplement de voir que, de se rappeler, ben, c'est une traduction que je lis, alors je préfère en voir plusieurs pour, enfin, me donner au moins une base solide pour dire, écoute, la plupart des traductions ont mis une conjonction là, ben, probablement qu'il y en a une, quoi. Ou alors, on peut avoir des outils qui nous permettent de voir s'il y en a une, même si on ne connaît pas le texte. Ça aussi, c'est possible, avec des interlinéaires, par exemple. Oui, les interlinéaires. Un interlinéaire, c'est le texte grec avec une traduction vraiment mot pour mot en dessous. Alors, normalement, la conjonction va être traduite immédiatement en dessous. Donc ça peut aider, ça. L'interlinéaire grec-français, il est vert, je pense, cet ouvrage-là. Oui. Ouais.
Ça existe en hébreu aussi,
l'hébreu. Oui, il est bleu, oui, exact. En français, en plus. Hein. Oui. Oui, c'est très bien. Ou bien alors, inscrivez-vous à un cours d'hébreu, grec ou araméen. Puis... Mais c'est beaucoup de travail. Oui. Ben voilà.
Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, on va peut-être quand même, avant de finir, donner gloire à notre Seigneur et on va chanter « À toi la gloire ».
Oui, très bien.
Si vous voulez bien. Puis ensuite, on aura quelques rappels, petites formations. Et ensuite, Philippe nous conduira dans la prière terminée.
Façon d'y arriver, alors Marco, il me voit venir, je pense. Je collectionne des Bibles anciennes. Et il y a une édition en particulier qui doit se trouver quelque part, mais que je n'arrive pas à trouver, c'est la seconde 1910. Mais pas une seconde 1910 de 1912 ou 1926 ou 45, 1910. Elle sera indiquée dans la page titre directement. Si jamais, et que vous n'y tenez pas trop, il faut me faire signe. Alors, aussi, vous avez une Bible ancienne quelconque et que vous voulez... Non, vous en départir pour une bonne cause.
Édité d'époque ou réédité?
Non, moi, je parle vraiment d'époque. Je cherche les éditions originales. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à rassembler près de 200 éditions originales de tout ce qui existe dans le monde francophone protestant de la Bible. Donc, Darby, 1859, il y a moi, Peter Laribault et Christian Eberly qui en ont une copie. Et à ma connaissance, il n'y a personne d'autre en Europe. Hyper rare à trouver, difficile à trouver. Alors, je les ai, mais je n'ai pas la seconde 1910 et quelques autres, mais ça, vous fouillez, si jamais vous dites, dans le Galta, il y a quelque chose là-bas qui traîne, et puis vous pensez à moi, voilà. Et c'est le but, c'est de faire connaître l'histoire de la Bible française dans une exposition permanente au Québec. Merci.
OK, on a bien noté. Aussi, il faut rappeler que demain après-midi, donc à 15h, à l'église évangélique rue Abbé-Barreau, 127 rue Abbé-Barreau, il y aura à nouveau notre frère Gilles qui va sévir et tu vas vous présenter une conférence sur Romains 12, c'est le premier verset de Romains 12. Donc rendez-vous demain après-midi, 15h. Et merci, Gilles.
Notre Dieu Père, nous voulons te remercier vraiment du fond de notre cœur pour cette journée, pour cet enseignement. Et nous sommes tellement émerveillés que tu aies voulu nous associer pour progressivement mieux comprendre, mieux te connaître. Tu nous as laissé ton livre, la parole de Dieu vivant. Quel bonheur. Et merci parce que tu nous as aidés pour avoir quelques clés pour mieux comprendre. Nous voulons vraiment te demander que nous sachions nous mettre à tes pieds. Donne-nous vraiment l'humilité lorsque nous ouvrons ton livre. Aide-nous vraiment à te laisser entièrement nous pénétrer pour que ton livre, qui est la vérité, nous sanctifie, nous transforme, pour que nous puissions être changés, pour pouvoir vivre chaque jour quelque chose à ta gloire sur cette terre, et que lorsque nous sommes appelés à prêcher, à l'enseigner, eh bien que nous puissions vraiment avoir cette conscience que nous parlons de ta part et que nous soyons prudents. Oui, donne-nous, s'il te plaît, de pouvoir vraiment être aussi en d'aimer ta parole. Alors, nous nous confions en toi pour que cette journée nous aide à la lire peut-être d'une autre manière. Merci aussi pour tous ces frères, pour tous ceux qui ont écrit depuis plusieurs générations aussi, pour nous aider à comprendre. Mais s'il te plaît, aide-nous à ne pas découvrir ta parole par les autres, mais vraiment nous tenant devant toi et avec l'aide de ce que tu as placé à nos côtés ou avant. Alors voilà, nous nous remettons à toi pour notre retour dans nos maisons et que voilà, nous puissions faire un bon usage de ce qui nous a été proposé, offert aujourd'hui. Béni notre frère Gilles, d'une manière spéciale dans son ministère. Nous te prions et te rendons gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Juste avant de partir, il y a encore du café et il y a encore des petits croissants.
Et donc... vous avez pu voir sur le flyer qu'il y avait donc l'organisation de cette journée, c'était par l'Assemblée des frères et sœurs de presse, et il y avait le comité Biblos qui était indiqué. Donc Biblos, juste, on m'a demandé de faire une promo, donc j'en fais une un peu à l'arrache. C'est une formation biblique en ligne qui dure du mois de septembre au mois de janvier, et donc cette année on étudie les 8 premiers chapitres de Romains. Donc vous êtes bien invités.